Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour, c'est Frédéric. Aujourd'hui, je suis dans les studios de RVM, accompagné de André. Bonjour, André.
Bonjour.
Alors, André, nous recevons Anne Khalif. Anne Khalif, bonjour.
Bonjour, Fred. Bonjour, André. Merci bonjour. De m'accueillir ici.
Alors, André, moi, ce que je vais te demander, c'est que tu nous présentes l'invité ou qu'elle se présente, comme tu veux.
D'abord, il faut dire qu'aujourd'hui, nous découvrons Anne Khalif. Nous ne la connaissions pas et nous faisons une présentation en direct à la radio et nous faisons connaissance en même temps. Anne Khalif, vous êtes écrivain, on dit aussi écrivaine, enfin bon, chacun dira.
On va dire écrivain parce que écrivaine, ça veut dire qu'on écrit pour rien.
Pour rien, on écrit veine, oui.
C'est vrai.
Alors, et vous êtes écrivain et vous êtes aussi en même temps éditrice, mais vous êtes déjà avec un beau parcours qui comprend au moins une dizaine d'œuvres en tant que, je dirais, ce sont des romans, c'est ça ?
Oui, romans, récits, oui.
Romans, récits. Plus beaucoup de carnets que vous avez aussi rédigés.
Les carnets, c'est pour la maison d'édition. J'ai commencé en tant qu'écrivain. Mon premier roman a été publié en 99. Donc ça fait quand même pas mal de temps. D'accord. Chez Gallimard, qui racontait mon enfance. Et puis, j'ai continué peut-être pendant 20 ans. Et la maison d'édition est arrivée plus tard. Avec une collection littéraire qui est arrivée en 2019, qui s'appelle la collection Horty. Pour la maison d'édition The Mantle House. Alors, pourquoi ortie ? Pourquoi ortie ? Parce que les orties, c'est des plantes qui poussent dans les lisières, dans les ornières, dans des plantes qui résistent à tout. Elles ont besoin de personne pour pousser. Elles n'ont pas besoin d'engrais, elles n'ont pas besoin d'humains. Elles piquent, elles guérissent en même temps. Et tous les personnages de la collection ortie et tous les auteurs sont ainsi.
Alors, je vais revenir quand même sur votre parcours, parce qu'avant d'être écrivaine, vous avez fait tout un chemin avant l'écriture, c'est-à-dire qu'un chemin, tout à l'heure, le peu qu'on a pu échanger, un chemin un peu atypique, puisque vous êtes aussi quelqu'un qui avait fait des études de médecine, vous avez fait beaucoup de choses et beaucoup d'interventions dans la rue aussi. Est-ce que vous pouvez nous synthétiser un peu ce parcours compliqué avant d'arriver à l'écriture ?
C'est compliqué de se résumer là. Oui, un parcours atypique, médecine non terminée. En 5e année validée, je ne suis pas allée en 6e année. Après, j'ai fait du droit. Après, j'ai passé un concours pour être prof. J'ai enseigné et c'est enceinte. J'ai écrit les premières lignes de mon premier roman le jour de la grossesse.
D'accord.
C'est les hormones qui ont déclenché, voilà. Et puis après, j'ai continué conjointement l'enseignement et l'écriture. Après, j'ai quitté l'enseignement, l'écriture et puis après la maison d'édition. Mais c'est atypique, hein. Mais il y a une ligne quand même qui est celle de l'écriture et puis de l'encre. Hein.
Oui. Et alors, qu'est-ce qui caractérise un peu votre écriture ? Puisque...
Ça évolue, hein, l'écriture, après, elle évolue avec le temps. C'est-à-dire que le premier roman, c'est ce que dit toujours aux autres auteurs, le premier roman, on met tout de soi.
Oui.
Et le plus difficile à faire en tant qu'auteur, c'est le second roman. Il n'y a pas plus dur qu'un second roman. Parce que le premier, on a de quoi dire, et puis si, parfois on se dit qu'on l'a épuisé. Dans le second, il faut vraiment arriver à trouver autre chose pour arriver à se renouveler. Et la question, c'était j'ai perdu.
Oui, mais vous disiez aussi qu'en même temps, déjà quand vous vous êtes mis à écrire, vous avez gardé quand même un fil très sensoriel, c'est-à-dire que vous vous mettez à l'intérieur même de...
Ah, j'ai besoin de vivre. J'ai aucune capacité fictionnelle, ni aucune pas beaucoup d'imagination. J'ai besoin de vivre le récit par moi-même, par mon corps. Donc j'écris toujours à la première personne. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait un texte, j'ai toujours voulu écrire sur les gens de la rue. Et pour écrire sur ceux de la rue, je suis allée vivre à la rue pendant un an. Et c'est marrant parce que j'ai fait ça à 39 ans. Je me dis, il faut faire ça avant d'avoir 40 ans. Et j'avais raison parce que c'était quand même assez éprouvant. Mais j'ai besoin de vivre, vraiment, de placer la caméra ou la plume à l'intérieur du corps pour le vivre et le ressentir.
C'est-à-dire que vous avez vécu véritablement dans la rue.
Dans la rue. Dans la rue, j'ai fait la manche, j'ai pris le subutex, j'ai tout essayé, oui. Une chassise par terre, oui.
Aujourd'hui, vous êtes venu particulièrement...
Présenté, par rapport au métro, justement, je fais le lien. Présenter un roman qui a été écrit avant le confinement. Hein, c'est...
Oui.
Donc, il n'y a pas de masque. Hein.
Très bien.
Donc, on peut le lire sans le masque, alors, il n'y a pas de problème.
Oui, bah, c'était une époque hors confinement, donc oui.
Alors, il s'appelle comment, ça ?
Alors, d'autres itinéraires de soi.
Alors, c'est un parcours, si je comprends bien.
C'est un, oui, c'est une série de parcours. Alors, c'est un, grosso modo, si on résume, hein, c'est un, je suis très attachée au personnage principal. C'est un homme qui a, il a 59 ans. Donc, c'est intéressant, c'est 59 ans, les 39 ans, les 49 ans. C'est des âges intéressants parce qu'on arrive juste avant ce plateau, les plateaux comme les 30, 40, 50, 60, des sortes de plateaux dans l'existence où on monte en haut et puis on contemple le trajet qu'on a parcouru. Et... Il y a des moments comme c'est... ça. On regarde ce qu'on a parcouru, puis on regarde ce qu'il nous reste à faire.
D'accord, c'est une façon de vivre le temps.
Avant
Les séquences par neuf, quoi.
Avant c'est la ça. Fin. Il y a des moments comme ça où vraiment on fait un petit peu le.
Des paliers, quoi.
Le palier, on fait le. Oui, on est en hauteur et on se voit. Et donc il a 59 ans, donc un âge critique. Et c'est un cultivateur qui vient de la grande région céréalière de la Beauce. Et ce cultivateur, il est malade, en fait, il dort tout le temps. Alors, on ne sait pas si c'est une dépression, sa femme s'inquiète et l'envoie se faire soigner à Paris. Oui. Voilà, donc on se retrouve un peu sur l'archétype classique du provincial qui va à Paris. C'est un classique. Je pense que vous n'avez pas ça en région parisienne, mais moi-même étant provincial, quand on est provincial et qu'on va à Paris, on se dit, il y a quelque chose qu'on doit faire, il y a un comportement adopté. Quand on est provincial, on se rend compte, je pense qu'on n'a pas ça en région parisienne, le banlieusard, entre guillemets. Hein. Mais le provincial qui arrive à Paris, il se dit, il y a quelque chose à changer, parce qu'il y a vraiment un comportement différent à Paris, il y a quelque chose à décrypter, et il faut s'aligner sur certains modes de fonctionnement. Et avec le temps, quand on est parisien, on se rend compte qu'en fait, c'est peut-être la seule région où finalement, on peut être soi-même et qu'on n'est pas jugé par les autres. Mais on met du temps à comprendre. Et c'est marrant parce que quand vous regardez tous les comiques, les one-man shows, tous les comiques, ils ont toujours un sketch où ils racontent leur arrivée à Paris.
Oui, ça, c'est fréquent, ça. Oui.
C'est un passage, quoi. On met un an pour passer de provincial à parisien. Mais je vous dis, ça doit pas toucher la région Île-de-France parce que vous faites Paris, vous y allez à Paris. Donc, vous n'avez pas ce... Il y a une métamorphose qui se fait. Donc, c'est le cas de ce cultivateur.
D'accord. Alors, il est à Paris, mais il est à Paris pour quelle raison ?
Alors, il est à Paris parce qu'il est malade, il doit se faire soigner.
D'accord.
Donc, comme dans la rue Isper, il prend le métro.
Oui.
Et là, il tombe complètement dingue et amoureux du métro. Et alors, il a des tickets de métro. Alors, c'est assez intéressant. Alors, on va faire un petit retour sur le métro.
Oui.
Le métro, le premier métro créé, c'était le métro anglais à Londres. Et le métro en France s'est créé en 1896 par Fulgence, je ne sais pas si on dit Fulgence.
Bienvenue. Oui.
Qui a donné son nom à la station Montparnasse. Bon. Bienvenue. Et un autre monsieur, Edmond...
J'ai oublié son nom, lui.
Edmond Huet, oui. Et la première ligne créée, c'était la ligne 1, qui faisait, à l'époque, elle faisait Vincennes-Maillot, qui est, moi j'appelle ça la ligne physiologique parce qu'elle suit la Seine, hein, elle est jaune. Et ensuite, l'autre ligne créée qui a dû être assez éprouvante, c'était la ligne 4, qui fait d'est en ouest, qui a dû passer sur la Seine. Et donc, il y a 14 lignes. 14 lignes et... La 1, c'est la plus fréquentée, d'après ce que j'ai compris. La 1, c'est la plus fréquentée. La 8, c'est la plus longue. La 13, c'est la plus saturée, hors période confinement, parce que c'est plus comme ça. Mmh. Et la 12, apparemment, c'est quand même... J'ai vu souvent que la 12, c'est quand même une des lignes les plus désagréables du côté de...
Alors, votre personnage découvre toutes ces lignes ?
Alors, mon personnage découvre toutes ces lignes. Il a des tickets de métro
qui
changent de couleur. Tous ces tickets de métro, ils reprennent les anciens tickets de métro... Avant, parce qu'on a maintenant on a le Navigo,
oui.
Mais les tickets métro sont apparus quand le poinçonneur des
Lilas.
Le poinçonneur des Lilas.
Référence à Gainsbourg.
Oui, mais j'ai mis ces phrases que j'ai mis en exergue, le poisson de Lila. Quand les poissonneurs sont arrêtés en 73, hein, c'est pas vieux.
C'est pas si vieux.
Ah,
ça.
Oui, c'est pas,
c'est
si
pas vieux.
Vieux
hein. Ouais. Poissonneur de Lila, c'est ce que j'ai noté. Elle est magnifique, cette chanson. Ouais. Je suis le poissonneur de Lila pour envahir, changer à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confetti. J'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances.
Oui,
c'est beau.
73, ils sont disparus. Et j'ai longtemps discuté avec un estériophile. Alors, qu'est-ce qu'un estériophile ? C'est un collectionneur de tickets de transport.
Ah, ben,
un estériophile. Ah ouais ?
Oui.
C'est un Donc, les tickets... mais c'est quand même assez intéressant. En 73, on a eu les composteurs. Et il y a les tickets jeunes qui sont apparus. Vous savez que la bande brune magnétique,
oui.
Ticket chic, ticket choc,
oui.
Il y avait une grande campagne de publicité. Oui. Ensuite, on a eu ils sont devenus verts, ensuite, les tickets. Et ensuite, ils sont devenus mauves.
Et alors, on suit le périple donc personnage tout au cours de...
C'est un gars qui est sauvage, qui est taciturne, qui ne parle pas.
Ouais.
Et c'est un enfant de la terre, un enfant des champs, un homme des sillons tout droit. Et avec toutes ces lignes qui se coupent, se recoupent, se croisent, se parlent, il s'ouvre à lui-même. Puis je vais lire un extrait. Et du coup, il apprend à communiquer...
Il se découvre, en quelque sorte.
Avec les autres, oui. Oui.
D'accord.
Je vais lire un petit extrait.
Alors, je précise que nous sommes en studio à RVM avec Anne Calife, écrivain et éditrice, voilà, accompagnée d'André pour faire ce reportage.
En raison de sa vitesse, de son inconnu, le métro améliore les relations. Métro, confrontation oblique et sans risque d'inconnu. Ce jeune homme, par exemple, il portait un costume rayé, de longues chaussures noires cirées. L'enfant qu'il restait se trahissait par une masse brune de cheveux volubiles qu'il n'arrivait pas à discipliner. À la main, il tenait ce sac opaque loin de lui. Je devenais de plus en plus curieux, parce que cela paraissait bouger doucement à l'intérieur du sac tenu dans l'ombre du siège. « C'est quoi ?» avais-je demandé, en pensant que la promiscuité du métro court-circuitait les policettes embarrassantes. On pouvait démarrer une conversation en entrant dans le vif du sujet très rapidement. Je m'approchai et m'exclamai tout haut. « Un poisson rouge !» Il leva de grands yeux heureux vers moi, rectifiant « Non, trois poissons rouges !» Comme je m'inquiétais pour leur survie, la distance qui les séparait de leur aquarium, il leva le menton et ajouta deux stations plus loin. Trois poissons sous terre avec un aquarium qui se trouvait deux stations plus loin. C'est là tout ce qui avait été échangé et cela suffisait largement. Parfois, les mots servent si peu.
C'est assez étonnant parce que c'est un personnage qui fait du métro, si je comprends bien, un lieu de rencontre.
Oui.
Alors que souvent, on dit que c'est un lieu d'anonymat, mais pas du tout. Là, c'est quelqu'un qui, justement, garde cette qualité de provincial, justement, où on se salue dans la rue et où on prend contact.
Le métro, c'est quand même un univers très particulier. À la fois, oui. C'est un univers de soi qui est fermé, où chaque personne est authentiquement lui-même, elle est extrêmement lui-même, mais personne ne joue de rôle dans le métro. Et en même temps, c'est quand même un univers complètement ouvert de l'autre, où chacun... personne ne se cache et avec une grande... Il y a une grande intimité quelque part. Moi, je me souviens dans le métro, les gens qui lisent un livre, je regarde par-dessus. Les gens, à l'époque, quand je suis arrivée à Paris, les gens qui envoyaient des SMS, je regardais les SMS, les gens écoutent leur musique, on écoute leur musique, ils téléphonent, on entend tout. Il y a une grande intimité avec une profonde indifférence.
Ouais.
Mais on rentre très vite en communication avec les gens parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour parler.
Eh oui.
Eh bien, c'est justement le problème qu'on a aussi ici, c'est qu'on a très peu de temps pour parler encore avec vous, Anne. Alors, comment découvrir votre travail ? Parce que malheureusement, l'émission se termine. Donnez-nous des contacts, des liens, s'il vous plaît.
Ben, on a le site de la maison d'édition, thementalhouse.com. Et puis le livre qui est disponible dans toutes les librairies, d'autres itinéraires de soi.
Très bien. Donc, on vous réinvitera, hein, ça sera plus simple. On passera plus de temps ensemble, si vous voulez, parce que malheureusement, l'émission se termine.
Ouais.
André, quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte ?
Eh bien, d'autres itinéraires de soi, c'est un parcours de vie, donc c'est un livre à recommander, et nous le recommandons. Voilà. Et Anne Calife, on peut se dire à bientôt ?
À bientôt.
Merci Anne Calife d'être venue nous voir à la station RVM, voilà, pour rappeler le métro.
Oui.
C'était André et Frédéric qui recevaient Anne Calife en studio à RVM. Je vous dis bonne écoute sur RVM 93.7. Au revoir.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.